Les nuits de France Culture.
Le métier de cuisinier n'a jamais été un métier facile. Si les cuisines d'aujourd'hui respectent des normes d'hygiène et de sécurité plus strictes, permettant de meilleures conditions de travail, on peine à imaginer comment les cuisiniers survivaient pendant de longues heures leur travail au quotidien dans les cuisines d'antan. Il n'y avait pas d'aération, et la visibilité était réduite par la fumée des fourneaux que l'on inspirait à longueur de journée. À la pause entre deux services, on n'allait pas faire du sport ou se promener. C'était souvent direction la buvette, pour s'échapper et se détendre avant le service du soir. Si je devais recommencer, je préférerais changer de métier, déclare d'ailleurs Pierre Troisgros dans ce numéro d'Un métier, trois générations, de Hélène Delabrusse, qui revient sur l'évolution du métier de cuisinier dans cette deuxième moitié du XXe siècle. On y entend donc Pierre et Michel Troisgros, mais aussi Paul Bocuse, Jacques Marguin, Catherine Marguin, Christophe Marguin et le sociologue Jean-Pierre Poulain. Une émission diffusée pour la première fois le 9 août 1987.
Un métier, trois générations.
Les cuisiniers, une émission d'Hélène Delabrusse.
Madame Catherine Marguin, quel âge avez-vous ?
J'ai eu 80 le 20 janvier.
Et quel était votre métier ?
Paysanne, agricultrice. Quand je me suis mariée, j'avais 28 ans. Je suis venue là dans la restauration, toute bête, toute lourde. Et je me suis débrouillée, j'ai fait la cuisine tout de suite. Ma belle-mère était décédée il y avait 2 ans. Il y avait que des employés, et donc j'ai pris la maison.
Vous aviez donc épousé un restaurateur ?
Restaurateur, oui. Un restaurateur, il avait 3 ans de moins que moi, il avait 25 ans. Et donc il était avec des employés, il était quand même, c'était juste pour s'en occuper. Il était toujours fatigué, il était un grand asthmatique, il n'était pas tellement en forme. Et donc j'ai lutté, j'ai travaillé.
Et votre mari, était-il d'une famille de cuisiniers ? Avait-il
appris ? Ah oui, il avait sa mère qui était décédée 2 ans avant, qui était une femme de tête, qui était une cuisinière, qui avait donc formé cette maison.
De quel pays êtes-vous, Madame Marguin ?
Moi j'étais du pays à côté, Mionnais, où il y a Alain Chapelle. J'ai resté dans la maison, enfant, j'étais à l'école que dans la maison où il y a Alain Chapelle.
Et lorsque vous avez commencé à apprendre votre métier, vous l'avez appris près de votre mari.
Ah oui, oui, oui. Je l'ai appris auprès de mon mari. Ah oui, oui. Maman était bonne cuisinière, mais enfin, c'était donc pas toutes les formations qu'on doit avoir.
Quelle était la formation d'une cuisinière ?
Eh bien, c'était quand même... J'avais surtout les grenouilles et le poulet à la crème. C'était donc bien simple. Mais donc, je tuais les grenouilles. Ah, c'était pas rien. Et mon fils, après, donc, c'est lui qui les tuait avant d'aller à l'école le matin, parce qu'on n'avait pas beaucoup de personnel. Et c'était très, très, très dur.
Comment est-ce que vous êtes arrivé à avoir cette renommée ? Parce qu'à travers des grenouilles, il y avait d'autres personnes qui faisaient des grenouilles. Oui. Qu'est-ce qu'elles avaient, vos grenouilles de particulier ?
Ah oui, elles ont toujours eu, moi, on en parle encore des grenouilles, comme je les faisais. Mais oui. J'avais une spécialité pour les faire, je les faisais pas comme tout le monde d'ailleurs. Donc je les mettais dans le beurre pour que ce soit dans un beurre bien à point, et je ne les tournais jamais, qu'une fois, jamais deux fois. Et en général, moi je vois encore maintenant, puisque mes 3 enfants sont dans la restauration, je vois sauter les grenouilles, et moi je faisais pas comme ça.
Et votre poulet, qu'est-ce qu'il avait de particulier ?
Eh bien, je le faisais à la façon de Paul Blanc. Et donc je trouve encore que c'est la meilleure recette. Avec un oignon dedans. Et en général, tous les chefs mettent des échalotes. Mon fils, mes gendres, ils mettent des échalotes. Et moi, non. Je mettais oignon. Et je trouve qu'il y a un parfum autre que l'échalote. C'était une idée de bien à moi.
Comment ça s'est passé en 1935 ? Alors, vous avez été au fourneau. Vous avez commencé par faire quoi ?
Eh bien, tout ce qu'on faisait, tout ce qu'ils faisaient déjà avant à la maison, puisque la maison continuait, puisque ma belle-mère était décédée, la vie continuait. Et alors donc, il y avait donc ces grenouilles, ces poules à la crème, ces terrines, toutes ces bonnes, et puis tous les gibiers. C'était aussi donc bien les gibiers, les échelles, c'était un coin de gibier. Et alors donc, c'est venu tout seul, j'ai fait ça, j'ai jamais rien raté, j'ai jamais rien fait brûler, c'était donc Oui, oui, maintenant je suis bien capable.
Est-ce que la cuisine était un endroit où, malgré tout, vous ne vous sentiez pas mal à l'aise? Est-ce que c'était agréable? Ça n'était pas fatigant? Est-ce que c'était aéré? Parce que quand on voit les vieilles cuisines, on se dit que le fait d'y vivre ne devait pas toujours être très salubre.
C'était à la campagne, c'était en pleine campagne. Bien, la cuisine était entre deux routes, alors aérée. J'étais jamais fatiguée. J'avais deux sœurs qui auraient été incapables, qui étaient toujours fatiguées en faisant rien, en faisant dans les bureaux. Mais moi, j'étais jamais fatiguée. Je me couchais 2 heures du matin, je me relevais le matin et fraîche et dispo.
Par quoi commenciez-vous votre journée?
Je m'occupais de faire le ménage. Je ne le faisais pas, j'étais dans la cuisine, mais faire dans les salles. J'allais faire le marché avec mon mari. Mon mari m'emmenait à Lyon, d'aller à Lyon. Et maintenant, c'est au marché-gare. Mais en fait, j'ai encore été au marché-gare, Maud, à la fin de mon septennat. Je préparais tous ces légumes. Tous ces légumes du matin, éclairer le feu, on éclairait le feu. Il était, oui, au début, il était encore au charbon. Puis après, on a mis au mazout. Mais alors donc, au charbon, il fallait éclairer ce feu. Ces grandes cuisinières où il fallait, avant que ce soit chaud, il fallait très longtemps. On préparait tous ces légumes et on commençait à préparer tous les fonds d'artichaut, tous les légumes que nous faisions. Et les desserts aussi, les tartes, je faisais aussi les desserts.
Lorsque vous aviez fait votre marché, vous composiez votre menu. Alors là, vous le faisiez pour combien de personnes et avec un personnel qui vous permettait de servir beaucoup de clients?
30, 40, tous les jours la semaine. Alors le dimanche, davantage. Le dimanche, aller à 80.
Mais vous n'étiez pas toute seule, vous aviez déjà des aides.
Pas tellement. J'en ai eu à la fin de ma vie. Et que j'ai dit, mais j'aurais bien dû prendre plutôt comme ça. Je faisais bien toute seule. Mais j'avançais beaucoup, je peinais, mais je le faisais.
Quel était votre jour de repos?
Ah, il n'y en avait pas. Je n'en ai jamais eu. Et quand on me demande, qu'est-ce que vous regrettez dans votre vie? Ah, je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir eu un jour pour me reposer.
Jean-Pierre Poulain, vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Anthropo-sociologie de la cuisine et des manières de table », thèse qui a été présentée sous la direction d'Edgar Morin. Pourquoi vous êtes-vous intéressé particulièrement à la cuisine?
Alors, historiquement, parce que je suis cuisinier en étant sociologue et qu'il s'agissait pour moi de connecter deux parties de mon activité professionnelle. Je suis enseignant à l'école hôtelière de Toulouse. Et connecter deux passions. La passion que j'avais pour la cuisine, je suis fils de cuisinier, et puis cette recherche intellectuelle qui me travaillait les tripes, si je peux dire.
Pourquoi ce sont les cuisiniers qui sont maintenant les détenteurs de cette gastronomie, de cette bonne cuisine?
D'abord, ça n'a pas toujours été le cas. Les détenteurs du savoir-faire ont été effectivement les cuisiniers, mais pendant un certain temps, ça a été également les maîtres d'hôtel. Je crois qu'il faut avoir une vision historique de ce processus. Très rapidement, prenons l'Ancien Régime. Et dans l'Ancien Régime, le cuisinier travaille à mettre en valeur son maître. C'est dans le service à la française, l'amphitryon qui rayonne à table, qui, maniant les armes, se met à découper la viande à table. C'est lui qui distribue la nourriture. Et cuisinier, maître d'hôtel, n'ont que des fonctions, qu'on ne peut pas dire secondaires, mais au moment du repas, c'est l'amphitryon qui tient la position centrale. À partir de la Révolution, les nobles émigrent, les cuisiniers se trouvent sur le pavé, et ici, ils ont deux attitudes. Ou bien, ils travaillent en maison bourgeoise, et ils reproduisent ici leur ancienne profession, ou bien, ils ouvrent des restaurants, et se mettent à vendre leur savoir-faire, leurs produits, mais au menu. À ce moment-là, ils vont le vendre à la bourgeoisie. Et les bourgeois ne savent pas manger, comme le faisaient les nobles. En fin de compte, ils ont envie, et pendant des siècles, ils ont copié la noblesse. Le bourgeois gentilhomme le stigmatise. Et seulement, ils ont cette impression qu'ils n'ont pas cette légitimité de la fonction et du statut. Et pour eux, apprendre à manger, c'est conquérir cette légitimité du pouvoir. En singeant un petit peu, en s'appropriant les manières de table de la noblesse. Alors là, on va voir... le maître d'hôtel jouait un rôle très particulier, extrêmement important. C'est-à-dire que c'est lui qui va apprendre à cette bourgeoisie les bonnes manières de table. Il va avoir une fonction pédagogique. Et le restaurant va donc avoir non seulement une fonction de plaisir, de nourriture, de convivialité, mais en même temps, ça va être le lieu où l'on apprend les bonnes manières. Et alors, ça va être ce statut un peu particulier qui, pendant plus d'un siècle, va faire du maître d'hôtel le personnage le plus important en matière de gastronomie. Comprenons-nous bien, il va y avoir un double développement là, durant le 19e. Le restaurant, c'est le maître d'hôtel qui brille. Et en maison bourgeoise, c'est le cuisinier. Et depuis 1960-65, un processus s'est engagé qui substitue à la position du maître d'hôtel la position du cuisinier. Maintenant, les cuisiniers sont devenus des stars. Jean-Paul Aron dirait des metteurs en scène. C'est-à-dire qu'en réalité, on va non seulement manger chez Robuchon ou chez Bocuse, mais on mange presque du Bocuse ou du Robuchon.
Pensez-vous, Jean-Pierre Poulain, que pour être un bon cuisinier, il est nécessaire d'avoir un père cuisinier et une grand-mère cuisinière? Est-ce que ce sont les... disons, c'est le processus normal?
Alors j'aurais tendance effectivement à répondre oui. Tous les grands cuisiniers parlent de leur grand-mère ou de leur mère, les grands cuisiniers contemporains, et moi-même, je dois beaucoup à mon père, et ma grand-mère était elle-même cuisinière. Mais regardons bien un peu ce qui se passe dans la cuisine contemporaine. Les grands cuisiniers ne sont plus tous à Paris comme ils l'étaient au 19e. Le centralisme parisien, Paris est le centre du monde créateur en matière de cuisine au 19e, n'a plus tout à fait cours. Roger Verger est installé à Mougins, Paul Bocuse est du côté de Lyon, Lyon est devenu une espèce de capitale de la gastronomie, André Daguin est dans le Gers, Michel Guérard s'installe dans les Landes, etc. Je crois qu'on a ici un déplacement du centre créateur de la cuisine vers la province. Et en province, en fin de compte, c'était des restaurants, les Bocuse, c'était en fin de compte des restaurants familiaux, où la mère tenait le fourneau. Et où le père, parfois, vaquait à des occupations qui étaient tout à fait annexes. Et on a affaire ici à un déplacement de la grande cuisine. Et la grande cuisine se développe dans ce qui était avant des anciennes auberges. Et il y a ce rapport, donc, de filiation entre la cuisine, qu'on pourrait dire populaire des régions de France, et la grande cuisine. Et c'est une autre caractéristique de la nouvelle cuisine contemporaine, c'est ce ressourcement aux saveurs du terroir. Et c'est un petit peu cet esprit-là que je développe également dans la collection que j'anime aux éditions Priva.
Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas de femmes actuellement dans les grands noms connus de cuisiniers?
Il y a en fait deux mondes culinaires différents. Le monde culinaire de la maison, qui est le domaine des femmes, et le monde culinaire du grand art, de la tradition, qui est le monde des hommes. Et c'est un héritage ancien, et la cuisine contemporaine, jusqu'à un passé très récent, a vécu sur cet héritage. Le milieu de la cuisine est en même temps un milieu un petit peu misogyne, on n'acceptait pas facilement les femmes dans les brigades. Avec la nouvelle cuisine, la sensibilité n'est plus tout à fait la même, et on s'aperçoit que des femmes, non seulement arrivent à faire aussi bien, mais parfois mieux que des hommes. Prenons le cas d'Olympe, il y a un certain nombre de femmes qui se mettent à la restauration, il y a même une association des femmes restauratrices, et je crois que la nouvelle cuisine montre un changement dans les mentalités et l'esthétique culinaire, qui jusqu'à présent était somme toute une esthétique d'homme, car au 19e, la femme n'a même pas sa place au restaurant. C'est ou des mondaines, ou des demi-mondaines si l'on veut, mais la femme, la vraie, l'épouse, la mère, elle mange à la maison. Elle n'a pas sa place au restaurant. Chez Maxime, elle n'a pas sa place. Et c'était un monde d'hommes, le monde de la restauration. Et on est encore sur un peu cet héritage, mais les choses sont en train de se fracturer, car la femme a maintenant sa place au restaurant. Et comme la femme revendique le droit au plaisir, elle revendique le droit au plaisir gastronomique, et le plaisir gastronomique se prend maintenant avec son épouse légitime, entre autres.
Avant d'offrir un mets aux convives, on le découvrait et les serviteurs en faisaient l'essai, soit en le goûtant, soit en le touchant avec un des nombreux objets regardés comme d'infaillibles préservatifs. Langue de serpent, corne de licorne, crapaudine, serpentine, agate, etc. Les langues de serpent étaient en réalité des dents de requin. Plus spécialement employées pour laisser du sel, elles accompagnaient la salière à laquelle on les attachait par une chaînette. La licorne, ou unicorne, symbole de la virginité, avait horreur de toute impureté, et sa corne, si dure qu'aucune armure n'était capable de lui résister, suait du sang dès qu'elle était mise en contact avec un objet empoisonné. De là, un procédé d'expertise d'une grande simplicité et à dégoûter pour jamais de l'étude de la chimie. Beaucoup de personnes conservaient sans cesse au fond de leur verre à boire un fragment de ce talisman prophylactique.
Nous nous trouvons à Roanne, dans la maison Troisgros, et en face de moi, j'ai donc Pierre Troisgros. Pierre Troisgros, vous êtes le successeur de votre frère et de votre père. Comment la maison Troisgros a-t-elle commencé ?
Je vais vous faire un petit historique rapide. Mes parents sont venus à Roanne en 1930, mon père Jean-Baptiste et ma mère Marie. J'avais 2 ans, mon frère en avait 4. Ils étaient cafetiers à Chalon-sur-Saône, notre ville natale. Et mon père, pour des raisons d'espace vital, s'est mis à la recherche d'une affaire où il y avait une cour. Ici, donc, à Roanne, il y avait cette cour. Cette cour, c'était pour qu'on évolue dans un volume d'air suffisant. Et donc, il a trouvé cette affaire provisoire, puisque il était là, il me dit pour 6 mois, 1 an, et puis après, c'est de sa propre bouche, ça lui permettait de voir et puis d'aller un peu plus haut. Et puis, vous savez, le provisoire en France, peut-être comme ailleurs, j'en sais rien, il dure longtemps. Et donc, il y a eu après les guerres et puis ce qui s'ensuit. Nos parents ayant toujours mis en valeur ce métier en nous disant que c'était le plus beau métier du monde et tout ça, si bien que à l'heure du choix, mon frère Jean comme moi-même, nous avons eu un réflexe spontané qui maintenant, je pense, était télécommandé, mais qui on a eu l'impression d'être personnel. Et on nous a dit qu'est-ce que tu veux faire ? C'était cuisinier tous les deux et nous sommes partis faire notre compagnonnage pendant 10 années. Je faisais la réflexion il y a pas longtemps. Je dis si je devais recommencer le métier comme on l'a fait à notre apprentissage, je préférais changer de métier. Mais il faut bien se dire que dans le temps où de ma jeunesse et de l'apprentissage, il y avait rien d'autre. Alors on ne savait pas. On vivait à monter les seaux de charbon. On n'était pas très hygiénique. Les lieux étaient inconfortables et souvent sous-sol. C'était pas notre cas ici, mais enfin c'était surchauffé. Il n'y avait pas d'extraction des vapeurs, des mauvaises graisses. Et donc, mais c'était le moment, je vous dire aussi le confort matériel, du matériel, parce que c'est tellement évolué par l'électricité, par toutes ces machines, ces robots coupes, ces choses qui facilitent le travail au maximum pour nous. Donc c'est devenu un métier ennobli, un métier agréable.
Pierre Troisgros, votre travail à ce moment-là était effectivement très dur, mais est-ce que vous pouvez me décrire un tout petit peu la cuisine, comment elle était faite, quel était le genre de matériel que vous aviez à votre disposition pour faire déjà une cuisine sophistiquée ?
Oui, je prendrai un exemple de tourner la glace. Vous voyez, c'était la sorbetière où on mettait de la glace et on la sanglait avec du sel gros. Alors, il y avait un commis qui tournait la manivelle pour jusqu'à ce qu'elle soit prise. Bon, maintenant, sorbetière électrique. Il y avait, quand on faisait les quenelles, on était avec un pilon à broyer la chair du brochet ou d'un autre poisson jusqu'à ce qu'on obtienne une manière compacte. C'était un métier un peu encore plus physique que maintenant. Mais contre quoi c'est compensé? Je prendrai l'exemple encore actuel de mes jeunes qui vont l'après-midi jouer au tennis ou au basket, ou au football. C'était impensable avant. On se donnait plus à la boisson parce qu'il fallait se mettre aussi. Je reviens dans l'histoire du contexte. J'étais à Paris, j'étais chez Maxime, un ou deuxième sous-sol dans le noir. On se retrouvait, on avait une coupure l'après-midi de 3 à 5, loin de tout terrain de sport. Que faire entre 2 heures? Par mauvais temps, sinon d'aller au café et de boire, et la tentation aussi d'avoir la boisson à gogo dans la cuisine. Mais moi, j'excuse ces gens-là parce que vraiment, les conditions de vie n'étaient pas très, très, très agréables. Le temps de travail, c'était, en général, c'est 9h, 8h. Nous, c'était 8h du matin, 2h30, 3h de l'après-midi, 5h, 10h, 11h du soir. Donc, Et les jours de sortie, en pleine saison, il n'y en avait pas. C'était un par accro. Mais la contrepartie de ça, ces jeunes sortaient forgés. Ils pouvaient, quand 10 ou 15 ans après, on leur dit « il faut serrer la vis pour te mettre à ton compte », voilà des gens qui réussissent.
Ce métier débouche sur 2 voies. Où on a son restaurant Et dans votre cas, effectivement, vous avez suivi votre père, ou alors on devient chef de cuisine. Est-ce qu'on a plus de satisfaction dans un métier que dans l'autre ?
Moi, je pense que c'est une question d'ambition et de goût personnel. L'éventail des cuisiniers est très large, parce qu'il y a celui qui est cuisinier à l'hôpital, il y a celui qui est dans une administration, il y a celui qui est chef dans un restaurant et un restaurant hors nom, ou qui se met à son compte. Avec mon frère, on a eu des chances d'avoir déjà un petit lieu de départ. Hein. D'autres personnes l'ont moins, mais si je prends l'exemple des quelques que je vous ai cités, c'est des jeunes à qui on a donné toute notre confiance, et en partant, je me rappelle pas ce que je leur ai dit en partant, mais on a dû leur dire, écoutez, ce métier, c'est très bien, mais il faut s'en sortir. Il faut tout faire pour être un jour à votre compte, être votre patron, et pour avoir une satisfaction d'un travail bien fait, bien accompli. Alors, travailler dans ce sens-là, et je pense que ces quelques paroles qui sont les paroles de départ de ces jeunes à qui qu'on appréciait, ont certainement appuyé dans la balance de leur choix.
Est-ce que le goût du client vous a permis une certaine évolution de la cuisine? Est-ce que cela vous a influencé?
Oui, parce que je me remémore, il y a 30 ans, on avait 3-4 clients de très gros standing qui étaient des industriels rouennais. Je prends l'exemple d'un monsieur qui est décédé dernièrement, qui s'appelait monsieur Damien, qui était dans une usine aux RCT, et qui, chaque fois qu'on faisait quelque chose, nous disait « oui, ça faut le faire, ça faut pas le faire ». Je me rappelle, il nous a dit, j'ai des clients, il faudrait bien me faire rentrer du saumon fumé. Alors, on avait dit, on va en faire rentrer une bande, on va lui en servir 4 tranches, on mangera le reste. Hein? Je parle d'il y a 30 ans. Et on s'est dit, c'est invendable ici à Rouen, au prix où c'est. Et puis, on a fait rentrer une bande de saumon fumé, lui en a mangé, les autres clients, ouais, et puis après, il s'en est vendu des kilomètres. Un autre qui c'était un gros industriel de Rouen, qui était monsieur Desvernois, il m'a dit, un jour, j'ai des clients, il faut me faire rentrer des homards vivants. Faut me faire des homards grillés. On a dit, c'est le même coup. C'était une grosse dépense, les homards. On servait plutôt du merlan, hein. Il dit, on va en faire rentrer. Tant pis s'il en reste, quoi. On verra bien. Et puis, depuis, on a vendu des centaines de kilos de homards. Donc, c'est des gens qui vous forcent la main et qui vous mettent sur des rails. Mais c'est sûr que le fait que notre père nous a amenés dans la salle, nous présenter à ces gens, à ces clients fidèles, et nous a fait comprendre que la cuisine, c'est bien, mais que le verdict, c'est dans la salle. Et je me rappelle une de ses réflexions. Mon père disait, quand des assiettes reviennent pas complètement vides, il y a un problème, faut voir. Ou c'est une question d'assaisonnement, ou c'est un plat qui plaît pas. Et là, faut réfléchir là-dessus et se poser des questions, et surtout pour faire jouer sa susceptibilité de professionnel.
Michel Troisgros, vous êtes le fils de Pierre Troisgros, le neveu de Jean Troisgros, le petit-fils de Jean-Baptiste Troisgros. Est-ce que c'est cette ascendance prestigieuse qui vous a fait choisir ce métier?
Et c'est sûr, ça m'a beaucoup influencé quand même dans le choix. Je ne veux pas dire par là que mon père, mon grand-père et mon oncle m'ont forcé à faire ce métier, mais vous savez, quand on est dans le bain, et dans un bain aussi haut de gamme, j'allais dire, aussi bon depuis tout petit, il est difficile de choisir autre chose, surtout que tout le temps on a côtoyé des gens tels que Paul Bocuse, qui étaient des grands amis à papa et à Jean, puisqu'ils ont toujours fait leur classe ensemble, que sans arrêt toute la famille nous disait vraiment la cuisine est le plus beau métier du monde. C'était en quelque sorte un lavage de cerveau qui fait qu'au moment du choix final, eh bien, ça nous paraissait une évidence. Enfin, je dis nous parce que je parle également pour mon frère Claude et puis pour mon cousin Georges qui est fils de Jean, puisque nous sommes tous les trois cuisiniers. Et donc, je dis nous, ça nous a paru vraiment évident de faire ce métier. J'ai commencé donc mon apprentissage à l'école hôtelière à l'âge de 16 ans. Donc mon père m'a fortement poussé pour faire l'école hôtelière, alors que mon grand-père Jean-Baptiste était contre. Il était beaucoup plus pour un apprentissage sur le tas, pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Grenoble pendant 3 ans, ce qui m'a permis de continuer donc des études de langue, de comptabilité, de gestion hôtelière qui sont indispensables aujourd'hui. Suite à ces 3 ans donc d'école hôtelière, pendant lesquels j'ai fait des stages aussi bien en salle chez Roger Verger qu'en cuisine chez Alain Chapelle, des courts stages. Donc aussitôt après, je suis rentré chez Freddy Girardet à Crissier pendant 1 an, où là j'ai fait véritablement mes premiers pas, mes premières armes en cuisine. Ensuite, je suis allé au Taïwan à Paris pendant un an avec Monsieur Claude Deligne et Monsieur Vrina, où là j'ai appris beaucoup plus la rigueur dans la cuisine, l'économie, la gestion des plats, enfin, et puis une cuisine parfaite, d'une régularité irréprochable. Ensuite, je suis parti aux États-Unis. Et là, j'ai appris une cuisine beaucoup plus cosmopolite, à la croisée de la cuisine asiatique et de la cuisine italienne, italo et française. Ensuite, je suis revenu sur le continent à Bruxelles, chez Monsieur Winans, comme chez soi, pendant un an. Là, c'était une cuisine familiale, très sincère aussi, avec des cuisines remarquables. Ensuite, je suis reparti à l'étranger, à Londres, en Angleterre, pendant un an, au Connaught Hotel avec Monsieur Bourdin, où j'ai fait mes premiers pas dans les cuisines traditionnelles, classique et en même temps anglaise. Et ça a été également mes premiers pas de responsabilité, puisque c'est là la première fois que je suis passé chef de partie et donc responsable d'une dizaine de personnes dans mon poste. Ensuite, retour en France chez Michel Guérard pour une saison d'été. Et pour finir, de plus belle, j'ai terminé avec mon oncle Jean et mon père Pierre à Rouen, puisque j'avais jamais eu l'occasion de travailler avec eux. Donc je suis rentré à Rouen, et malheureusement, un an et demi après, mon oncle Jean décédait, et j'ai un peu pris sa place dans l'organisation de la maison.
Michel Troisgros, comment voyez-vous l'avenir de la cuisine française, aussi bien en France qu'à l'étranger? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de restaurants? Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus de gens attirés par cette cuisine haut de gamme? Comment voyez-vous tout cela?
Je pense que l'avenir de la cuisine haut de gamme, telle qu'on la pratique aujourd'hui, et si on reste dans ce créneau, si on a la chance d'avoir toujours des produits tels qu'on les a aujourd'hui, parce qu'en France on est vraiment privilégié, je crois que la cuisine française va consolider encore sa force. Quant à l'étranger, je crois qu'il faut être prudent. De plus en plus, les étrangers, je pense aux Américains, sont érudits en cuisine. Énormément d'Américains ou de Japonais viennent en France faire des stages de cuisine, et ensuite, de par notre expérience, nos voyages, on s'en rend compte, et ensuite donc rentrent chez eux et font de la cuisine française. La cuisine française haut de gamme, c'est pour ça qu'il faut être prudent, parce que je pense que la cuisine française peut bien s'exporter, mais que le français s'exporte mal.
Michel Troisgros, est-ce que vous pensez que la nouvelle cuisine a un certain avenir ?
La nouvelle cuisine, le terme nouvelle cuisine est un terme qui a été inventé par Christian Millau et Henri Gault il y a quelques années, qui correspondait à une évolution de la cuisine qu'il y a eu dans les années 60-70. Aujourd'hui, le terme nouvelle cuisine commence à être un peu craint de certains chefs, puisque l'époque dite de nouvelle cuisine est terminée. Mais nous entrons constamment dans des nouvelles, des nouveaux styles de cuisine. Aujourd'hui, de nombreux cuisiniers sont influencés de leur voyage, donc ont une cuisine qui a tendance un petit peu, j'allais dire asiatique, cosmopolite. Et je crois qu'on va, ces quelques années à venir, on va vers une cuisine plus internationalisée qui s'appellera non pas nouvelle cuisine, mais peut-être cuisine du moment, cuisine contemporaine ou autre.
La crête se prépare traditionnellement avec les rognons lors d'un banquet d'anciens combattants. Il faut prendre le temps d'élever 12 poulets mâles, leur laisser le temps de devenir coqs, pour ensuite leur couper 12 crêtes, 24 rognons. 250 g de riz, une aubergine, un piment, une pincée de safran, du sel et du poivre. Après les avoir bien fait dégorger, les crêtes, on procède au blanchissage. On les plonge dans l'eau froide portée sur le feu à 45 degrés maximum. On les retire alors pour les frotter une à une avec un linge saupoudré de sel fin, ce qui les débarrasse de leur épiderme. On les rafraîchit à l'eau froide avant de les cuire dans un blanc léger. On délaie dans un litre d'eau froide une cuillerée de farine, 6 g de sel et 2 cuillerées de vinaigre. On porte à ébullition en ajoutant un oignon piqué d'un clou de girofle et un bouquet garni. On plonge les crêtes dans ce blanc en nappant de graisse crue hachée afin de former une couche isolante empêchant les crêtes de noircir. On compte 10 minutes pour cette première cuisson, puis on les fait rissoler à la poêle dans du beurre avec les rognons. On prépare le riz pilaf avec le piment et le safran, et on sert accompagné d'une couronne de rondelles d'aubergine passées dans la farine et cuites dans l'huile.
Jacques Marguin, c'est vous maintenant qui êtes aux Échets, dans ce restaurant. Vous êtes le cuisinier, vous êtes maître queue. Je vois des tas de diplômes dans votre entrée. À quel moment avez-vous commencé ?
J'ai commencé exactement mon apprentissage le 26 mai 1956 chez Paul Bocuse à Collonges-au-Mont-d'Or, à l'époque où Paul Bocuse était un petit cuisinier inconnu du grand public parce qu'il était tout seul chez lui. J'ai été son premier apprenti et nous avons commencé tous les deux dans son restaurant. Et ensuite, je suis resté 3 ans et demi chez lui. Je suis parti le 15 octobre 1959, après avoir passé mon CAP, et il m'a envoyé travailler à Paris.
Est-ce que vous avez fait ce métier parce que votre maman faisait ce métier, ou c'est parce que vous aviez vraiment envie de le faire ?
Non, je pense très sincèrement, je pense parce que c'était une tradition familiale, parce que maman avait dû oublier de vous le dire auparavant. Déjà, ses parents à elle avaient tenu une petite auberge à Mionnet, qui est devenue très célèbre aujourd'hui, qui s'appelle la Mère Charles. Ensuite, ma grand-mère paternelle avait monté ce restaurant avec mon grand-père. Mon grand-père était maréchal Ferrand et compagnon du Tour de France. Et je pense que c'est en étant né là-dedans, la tradition a voulu que je fasse ce métier. Et c'est surtout comme ça que je suis parti dans ce métier.
Oui, mais ce métier a beaucoup évolué. C'est un métier qui a pris une extension, dont on parle, qui a énormément de retentissement dans le monde. Donc, il y a eu une évolution de ce métier. Comment l'avez-vous ressenti ?
Oui, vous avez raison de dire que notre métier est... D'ailleurs, depuis, je pense, 2 ans maintenant, faisons partie des métiers d'art. Nous sommes reconnus officiellement par le gouvernement comme métier d'art, le métier de cuisinier, comme 7e art, d'ailleurs. J'ai eu la chance d'aller pour... il y a, je crois, maintenant 15 ans au Japon. Et dans la même année, j'avais fait le Japon et les États-Unis. Et toujours, j'ai des souvenirs merveilleux parce qu'à l'aéroport de Tokyo, on avait été reçu en Rolls-Royce. Moi, simple, Jackie Marguin, simple cuisinier aux Échets, totalement inconnu. On était nous chercher en Rolls-Royce. Et moi qui aime beaucoup le champagne, jamais je n'ai bu autant de Dom Pérignon qu'à Tokyo. Nous sommes restés 5 jours à Tokyo. Le matin, on se levait, on buvait Dom Pérignon. Le soir, dans le bain de nuit, on buvait Dom Pérignon. Ce qui prouve que le cuisinier, n'importe quel meilleur ouvrier de France qu'il soit, plombier, menuisier, charpentier, enfin je parle des artisans, ne sont reçus comme nous sommes reçus cuisiniers. Et en fin d'année de 1973, je crois, je suis parti à New York, et c'était pareil, je me rappelle, j'avais été reçu chez des gens à Central Park, qui avaient un immeuble à eux, qui avaient des toiles de partout, à tous les étages, il y en avait pour des milliards à l'époque, et ces gens-là nous avaient reçus très simplement dans leur appartement, je me rappelle même dans leur chambre à coucher, on avait visité, on s'était assis sur leur lit, et je pense que notre métier de cuisinier nous favorise beaucoup, nous sommes beaucoup, beaucoup plus près de nos clients, ça devient des amis, et on a beaucoup de contacts.
Christophe Marguin, je vous trouve à l'hôtel Lutetia, plus précisément au restaurant de l'hôtel Lutetia, où vous êtes commis de cuisine. Qu'est-ce que ça veut dire exactement, commis de cuisine ?
C'est un grade que l'on a quand on est cuisinier. Si vous voulez, on commence, on est apprenti. Ensuite, c'est un apprentissage qui dure 2 ans. On passe CAP au bout de 2 ans. Et ensuite, on passe commis de cuisine. Commis de cuisine, c'est pour où on apprend le travail. C'est une différente étape du travail. Et ensuite, au bout d'un certain nombre d'années, ça c'est les chefs qui décident, on passe chef de partie, c'est-à-dire qu'on est responsable d'une partie, et ensuite on passe sous chef, et on finit par être chef.
J'espère bien que vous finirez chef, vous avez d'ailleurs un restaurant qui vous attend. Justement, ce restaurant qui vous attend, qui a une telle renommée, est-ce que vous avez l'impression quand même qu'il y a une responsabilité dans votre cas, vis-à-vis de votre grand-mère, que nous avons eu le plaisir d'avoir, votre père, et tous vos ancêtres, car finalement, votre restaurant, le restaurant de vos parents, existe depuis 1905. Est-ce que vous vous sentez quand même responsable de cette tradition ?
Ah oui, c'est une énorme responsabilité, puis qui ne va pas être facile non plus à assumer, parce qu'il y a eu toute cette famille que vous dites qui a été avant moi, et ça va être très dur d'essayer de continuer de faire aussi bien.
Quand vous dites faire aussi bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire inventer des nouveaux plats ? Ça veut dire avoir une imagination de la cuisine ? Ou est-ce que ça veut dire gérer un restaurant ?
C'est un ensemble, ça. C'est la gestion et la cuisine. C'est un tout. Je pense qu'on va pouvoir évoluer parce qu'il y a des nouveaux modes de cuisson qui vont encore apporter quelque chose à la cuisine aussi. Ça va être quelque chose de bien.
pense.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel genre de mode de cuisson?
Mais, par exemple, le sous-vide à l'heure actuelle, qui est quelque chose d'assez récent, mais qui va pouvoir, qu'on va pouvoir exploiter dans quelques années, je pense, très très bien.
Qu'est-ce que c'est que la cuisson sous-vide?
Eh bien, c'est les produits qu'on appelle sous-vide, donc on met dans des sacs. On a des appareils pour mettre sous-vide, donc qui enlèvent toute l'air, et ensuite on cuit dans ces sacs, là, les produits. Et c'est très bien, parce que déjà, on peut conserver les produits plus longtemps en les gardant tout aussi frais.
Le maître goûta ma préparation, un rictus amer déforma les nobles traits de sa vénérable tronche. En cuisine, sache-le, gars de sauce, dit-il en me tordant l'oreille droite d'une paluche restée vigoureuse en dépit des années. En cuisine, il n'y a pas de mystère. Encore y faut-il des principes et des bases solides. D'abord, le principe de qualité. N'emploie que des ingrédients de première qualité. Pas de vin prétendument de table. Pas de ces liquides étranges en provenance des divers pays de la communauté européenne. Non, des crus qui disent fièrement leur nom. Tu n'en auras pas moins de regret, car tu retrouveras dans tes préparations le bouquet qui t'enchante dans ton verre. Second principe, le principe de quantité. Tu peux mouiller de vin rouge en abondance, mais pour le blanc, n'en use qu'avec mesure. Il donnerait de l'acidité à ta cuisine. Troisième principe, le principe de durée. Plus ton mouillement sera réduit, plus le résultat sera corsé. Étonnant, n'est-ce pas ?
Je crois que la cuisine, ça demande d'abord beaucoup de pratique, beaucoup de travail.
Paul Bocuse.
Et puis peut-être un sens, aimer les autres, aimer ce qu'on fait, et surtout regarder, voler avec ses yeux. Et ici, j'ai eu des apprentis célèbres qui sont devenus comme Jackie Marguin, qui est des échecs, comme Pierre Orsi, comme... vous savez, des petits Bocuse, il y en a beaucoup dans le monde, et ma chose la plus importante pour moi, c'est pas de savoir... comment j'aurais rempli ma vie, mais c'est de savoir si j'aurais transmis mon métier. Car nos métiers, nous sommes avant tout des manuels. Nous sommes un peu comme le compagnon charpentier, le compagnon ferronnier, et nous devons transmettre notre métier. Et c'est pour ça que la cuisine en France se porte bien, car il y a beaucoup de gens qui m'ont appris la cuisine, et il y en a encore beaucoup qui font très bien le métier.
Comment êtes-vous arrivé à mettre l'imagination dans la cuisine ?
J'ai passé un tas de phénomènes, la mode était à la cuisine, on a été une équipe avec les trois gros, les Berlin, les Vergers, les Outhier. On est tombé dans un bon moment, un bon créneau, c'était l'après-guerre, les gens avaient faim. Et la cuisine est devenue à la mode, elle est venue à mode parce que les gens ont découvert, peut-être ont découvert que la France avait les plus beaux produits. Et comme je dis toujours, Lyon est le garde-manger de la France, car il n'y a aucune ville au monde qui est aussi bien placée, entourée de vignobles au nord au sud, entourée des meilleurs lacs, entourée des meilleurs gibiers, des meilleures volailles de Bresse. Donc à Lyon, c'est facile de faire la cuisine. Je dis, il n'y a pas de bons chefs, il n'y a que de bons produits.
Mais vous avez fait un tour de France comme on faisait du temps où on présentait ses chefs-d'œuvre. Est-ce que vous pensez que le tour du monde, maintenant, est indispensable pour quelqu'un qui veut faire ce métier ?
Vous savez, mon grand-père travaillait avec les gens du pays, avec les Colongeards qui descendaient le dimanche faire la partie de boule. Mon père a commencé à travailler avec les gens de Lyon et un peu sur les environs. Moi, je suis arrivé, j'ai commencé à travailler avec les gens de la France. Vous savez, ça évolue très vite. Là, aujourd'hui, New York est à 3 heures de Paris, donc New York devient la banlieue. Et aujourd'hui, je crois qu'il faut viser le monde, la clientèle. Et si aujourd'hui on travaille, si on peut avoir 80 membres d'équipage dans notre maison, c'est preuve qu'on a prospecté le monde et qu'on essaye de bien vendre la France, mais aussi notre maison.
Est-ce que vous croyez que c'est un métier qui vous... On ne peut pas ne pas parler avec Paul Bocuse et parler de la nouvelle cuisine. Est-ce que vous pensez que cette nouvelle cuisine a rencontré une adhésion totale ?
Vous savez, on veut que tout soit nouveau. Hein. On veut que le nouveau roman, on veut la nouvelle politique, on veut le nouveau cinéma. Et ce qui est déjà nouveau hier est déjà vieux aujourd'hui. Pour moi, ce qui était nouveau dans la cuisine, c'est pas tellement les plats, c'est pas tellement... bien sûr, ça fait l'affaire de quelques journalistes qu'on dit créer chaque jour, et là, je vois ce qu'on peut créer. Ça fait l'affaire aussi de beaucoup de cuisiniers. Mais la nouvelle cuisine, pour moi, ça a été plutôt une histoire d'hommes. Aujourd'hui, sur 19 restaurants 3 étoiles qu'il y a en France, je pense que 18 sont tenus par des cuisiniers ayant appris leur métier. Aujourd'hui, la cuisine appartient aux cuisiniers.
Est-ce que vous pensez que le métier de la cuisine est transmis par les femmes.
Vous savez, Lyon est une ville fantastique pour les mères, car il y a eu la mère Filloux, il y a eu la mère Brasier, il y a eu la tante Alice, et c'est le pays des mères, et je crois que la cuisine, c'est d'abord une affaire de femmes. Mais bien souvent, c'est un métier difficile, c'est un métier compliqué, mais vous savez, qui faisait la cuisine chez les Marguin, c'était quand même la grand-mère Marguin. Et moi, j'ai des souvenirs du poulet à la crème, des grenouilles, des dombes sautées aux fines herbes. Pour moi, la cuisine, ça doit être une chose très simple. Je déteste les cuisines compliquées, et ce que je regrette aujourd'hui, c'est bien souvent... Il y a une cuisine agréable à l'œil, mais il n'y a plus d'os, il n'y a plus d'arête, et bien souvent, il est très difficile à identifier ce qu'on mange.
Les cuisiniers. Une émission d'Hélène Delabrusse. Avec Catherine Marguin, Jacques Marguin, Christophe Marguin, Pierre Troisgros, Michel Troisgros, Paul Bocuse et la participation de Jean-Pierre Poulain. Texte lu par Michel Derville. Prise de son, Édouard Campras, Serge Ristich. Réalisation, Jean Couturier.
C'était un numéro d'Un métier, trois générations, consacré aux cuisiniers, diffusé pour la première fois le 9 août 1987 et réalisé par Jean Couturier.